L'épopée du tramway de Piégu, Piégu, Pluvier, Pluvier, Pluvier.
Troisième partie.
Parenthèse socio-historique, le train est l'entrée dans l'âge moderne, ou les débuts de la croissance. En quoi est-ce que ça a été important pour Piégu d'avoir un train ?
Je dirais que le train arrive à Piégu un peu tardivement, parce que Piégu est déjà entré dans le monde moderne quand le chemin de fer arrive, hein, puisqu'il arrive en 1912. Et donc bien des choses s'étaient passées avant à Piégu qui faisaient que Piégu était entré dans le monde moderne, dans la mesure où il y avait déjà des grands magasins, la photographie s'était développée, il y avait des bicyclettes, il y avait déjà une transformation des modes de vie. Ben, le train arrive alors que le champ de phare a déjà été créé, la halle du minage s'était déjà construite, il y avait un nouvel hôtel de ville qui était en construction. Le train n'a fait que conforter la prospérité et le développement de Piégu à l'époque, quoi. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le taco du Périgord d'un pâté important pour des tas d'autres communes, dans la mesure où le train a permis justement la sortie du modèle de l'autarcie, quoi, d'un tas de hameaux, d'un tas de communes qui étaient longtemps restées isolées, quoi. Alors que Piégu, on sait qu'il y avait un marché qui était bien fréquenté. Piégu, il y avait des visiteurs, il y avait des voyageurs qui y passaient, puisqu'il y avait aussi une hôtellerie qui était développée, et que le marché a certainement contribué à structurer l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, en fait, les réaménagements des espaces autour de l'église, autour de l'hôtel de ville, pour justement développer de nouveaux espaces permettant d'accueillir un nombre de personnes à la fois marchands et acheteurs au niveau du marché, quoi.
Donc en fait, vous dites que Piégu était déjà avait déjà les pieds dans la modernité,
oui,
avant que le train arrive. Mais c'est quoi cette modernité ?
Ben, c'est ce que je tends à montrer, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des grands magasins, hein, notamment le bazar de Piégu, la grande maison moderne. Hein, donc c'était vraiment le modèle parisien du grand magasin. Et donc ça a été des formes nouvelles de commerce qui sont apparues avant le début du XXe siècle, puisque le bazar de Piégu a été créé en 1897. La grande maison moderne existait déjà avant, mais c'est développé.
Donc vous dites des changements au niveau de la consommation, donc le prêt-à-porter, vous parlez du boucher, du pain également, que les gens n'avaient pas l'habitude auparavant d'acheter.
Oui, donc toute cette révolution alimentaire, vestimentaire, s'était déjà produite à Piégu, quoi, et les gens venaient à Piégu pour acheter ces articles. Hein, de même, c'est un petit peu le nouveau rapport au temps que j'explique un petit peu dans mon ouvrage, qui se dessine. Il est clair que, de plus en plus, le respect des horaires, la conception du temps avait évolué avec le fait que, y avait des horaires de train, il y avait des choses à respecter, et que donc la vie moderne se calait de plus en plus sur des horaires. Oui, tout ça, c'est important. Ne serait-ce que, l'école, hein, pour fréquenter l'école, il y avait des horaires, et donc forcément, de main en main, il était possible d'aller à l'école sans respecter des jours d'école et des horaires de fréquentation d'école, quoi. C'est un nouveau rapport au temps qui s'est instauré. Et donc là aussi, l'école, l'école a été obligatoire quand même à partir des années... Jules Ferry dans les années 1880, quoi. Donc il y a eu là toute cette période du dernier tiers du 19e siècle qui était importante par rapport aux transformations dans le monde rural, quoi.
Alors, dans vos travaux, vous évoquez également un rapport, donc là, vous venez de parler du rapport au temps, mais vous parlez également du rapport à l'argent qui a changé. Vous citez notamment à un moment, page 89, vous dites que le curé de Saint-Saulf,
oui,
dans un rapport qu'il envoie à l'évêché, oui, dit être frappé par le culte de l'argent.
Bon, avec la sortie quand même de l'autarcie et l'existence en fait de nouveaux marchés, hein, puisqu'il y a des marchés qui se sont développés au tournant du XXe siècle, et parmi ces marchés, bon, il y a le marché du vin, il y a le marché également qu'on peut citer de la viande limousine. Donc il y a eu quelque part une embellie sur le plan économique. Et on sait que entre les deux guerres, bon, il y a deux décennies. Il y a la décennie des années 20 qui était des. Enfin, on peut lire que ça a été un peu les années folles, hein, jusqu'à la crise de 1929, qui était une crise financière, le fameux krach boursier. Et donc cette période-là était vraiment une période de développement et qui tranche, hein, avec les années 30, et il est vrai que cette décennie des années 20 a été une décennie, et c'est valable pour toute la France, a été une décennie de prospérité, hein, et donc effectivement le curé de Saint-Saulf, lui faisant un rapport à l'évêché en 1925, constate qu'effectivement il y a cet embellissement et que quelque part ça détourne un petit peu les... Bon, l'Église était déjà entrée en crise, mais enfin, ça détourne encore un peu plus les fidèles de la pratique religieuse. Les gens, il le dit, sont plus enclins à travailler le dimanche que de venir faire la prière au cours des messes, quoi. Et donc, il constate au cours de cette période-là une désertification de son Église, quoi. Donc, à commencer par les hommes. Puis ensuite les femmes. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, quoi.
C'était par rapport au culte de l'argent, oui, effectivement, les choses changent. Les gens, en fait, je suppose, voient des objets qui leur font envie et ils ont besoin d'avoir de l'argent pour se les procurer.
Non, mais c'est ça. Il y a des nouveaux marchés qui se développent, donc il y a des rentrées d'argent. Avec cet argent-là, les gens peuvent s'acheter des choses. Hein, donc il y a la révolution industrielle, hein, qui continue à pousser derrière, hein, donc à offrir de plus en plus de biens de consommation. Puis bon, il y a aussi, après 4 années de guerre, il y a une aspiration aussi au bonheur, au bien-être. Ça, je pense que c'est important, quoi. Alors là aussi, le train, faut pas l'oublier, a permis le transport, bon, des engrais, de la chaux, hein, puisque là aussi, faut pas oublier que les espaces sont peut-être importants, mais les rendements sont très faibles, et donc il y a effectivement un développement de l'agriculture qui est possible grâce, bon, à ces apports, quoi, d'engrais, de chaux, et donc l'agriculture étant plus productive, effectivement, les paysans vivent mieux, quoi.
Quatrième partie.
Que reste-t-il du tramway de Piégut-Pleuvier? Oui. Que devient un tramway disparu? Et que devient une gare inusitée? La suite. Rendez-vous sur https://fragmentschampetreetperiphérique.lepodcast.fr. À bientôt.